dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, je suis heureuse de vous retrouver dans le royaume de l'intermédiaire. J'espère que vous allez tous bien en ce joli printemps du mois de mai. Voilà, alors nous nous retrouvons pour une petite page, c'est-à-dire d'un petit thème que j'ai déjà plus ou moins abordé. Mais ceci dit, je vais l'aborder par le biais de l'art et d'une période hautement évidemment culturelle, puisqu'elle fait partie de notre modernisme et de notre contemporanité, c'est-à-dire le 18e siècle, le siècle des Lumières. Le crime au temps des Lumières. Vivre et dire et punir le viol au 18e siècle. Voilà le thème que nous allons aborder. C'est un thème qui, par le biais de l'art, ceci étonnant parce que c'était gravement puni, normalement, mais cependant c'était largement dessiné. En choisissant d'illustrer cet article, Monsieur Lancereau, comme nous le faisons habituellement, au moyen de l'iconographie de l'époque, à l'instar du tableau très connu qui s'appelle « Le verrou » de Fragonard, peint vers 1777, nous n'entendons ni magnifier ni banaliser les scènes représentées ou l'ordre social et moral qui s'y donne à lire. L'enjeu consiste, au contraire, à mettre en lumière la manière dont l'univers mental du XVIIIe siècle, concernant les agressions sexuelles et violences faites aux femmes, contaminait également son régime iconographique, tandis qu'en retour, cette même production d'images participait activement à l'entretien d'une véritable culture du viol. Et oui, ceci, expliquant cela, je ne sais pas. Depuis près de 2 ans, le monde des littéraires 18e-istes se déchire. En 2017, il était soumis aux candidates à l'agrégation de lettres modernes un recueil de poésie d'André Chenier, dont l'une, L'Oaristie, décrivait le viol d'une certaine Naïs par le berger Daphnis. Une fois, deux fois, trois fois, les jeunes femmes disent non, refusant ses charmes aux satyres qui agrippent son corps fini par déchirer ses vêtements. Une lettre ouverte des agrégatifs fut adressée aux membres du jury en vue de connaître l'attitude intellectuelle à adopter en tant que candidat à un concours de l'enseignement public vis-à-vis de ses écrits et de ses récits. Dans cette demande, la presse conservatrice vit cependant un manifeste féministe radical. Aussi, les objections hostiles se multiplièrent-elles, niant tantôt la qualification de viol elle-même, tantôt la pertinence de cette caractérisation dans le cadre d'études techniques de la littérature, sur fond de controverses autour du concept de culture du viol, appliqué à l'époque moderne. Attention, si la littérature du XVIIIe siècle entre ainsi en résonance avec nos préoccupations contemporaines, l'étude historique du viol au siècle des Lumières révèle également des enjeux sociaux d'une puissante actualité. Nous allons faire une petite pause musicale en compagnie de Roy Kim, No Longer Kim.
True. 추억 속에 묻혀있던 우릴 시간 속에 흐려지던 널 되돌릴 순 없는 걸까 달빛 아래서 춤추던 밤 별들도 우릴 비추던 날 세상 가장 아름답던 그 순간 처음에 우린 사라지고 시간에 묻혀 지워졌네 우린 지금 어디쯤에 있을까 You are my life 아직도 나 I feel you shining No longer
Roy Kim, toujours des jolies petites ballades coréennes, je ne change pas avec No Longer Kim. Vous êtes en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1. Vous pouvez retrouver nos émissions sur www.radioescapades.org. Alors nous continuons cette soi-disant culture du viol. Alors, cette culture du viol au XVIIIe siècle, et puis nous poursuivrons par le biais de la littérature et toujours aussi de l'art. Car en peinture comme Fragonard, Le Verrou met en exposition, d'une manière très pudique quand même, l'acte comme une petite banalisation. Alors, banalisation et invisibilisation. On ne dit guère le viol au XVIIIe siècle, contrairement à notre époque où la parole meurtrie et courageuse se libère progressivement. Le témoignage des victimes de l'époque moderne demeure largement insaisissable. Nous ne connaîtrons jamais le sentiment intime des victimes, ce secret qui se trame au plus profond d'elles. Certaines sources, à commencer par les traces des plaintes effectivement déposées, témoignent malgré tout de l'indescriptible bouleversement que représentait ce crime déchirant, ainsi le silence des archives. Dans un récent ouvrage aussi sensible qu'intelligent, Arlette Farge, la grande historienne des mondes populaires et oubliés, marginaux et démunis, a publié la déposition d'une certaine Jeanne Gallois, fileuse de soie du faubourg Saint-Antoine, en date du 27 juillet 1775, dont l'orthographe et la ponctuation ont été laissés en l'état. a rendu plainte disant qu'il y a 7 années qu'elle occupe une chambre au 4e étage de la maison de Sieur Rodron, père, que la nuit du 20 juillet, profondément endormie, elle fut éveillée par un bruit et fit un nom, le fils de Rodron, marchand fripier, qui se jette dans sa chambre avec 2 autres compagnons. Ce fut un passage, vous vous en doutez bien, très glacial et plein d'effroi. Sa parole expira sur ses lèvres, un tremblement s'empara et perdit connaissance. Il se jeta sur elle avec une telle violence, lui captivant les bras et ainsi faisant des méfaits pendant des heures. Épuisés et eurent recours aux cris malgré leurs coups puis leur violence, les surnommés ont pris la fuite. Depuis ce temps, elle est dans un état déplorable tant par la violence du viol que par l'effroi éprouvé dans son temps critique à garder le lit et lui est resté un tressaillement dans les membres qui revient toutes les nuits et la jette dans une angoisse terrible. Dans ce récit, glace le sang, depuis l'horreur de l'agression subie malgré une résistance acharnée jusqu'au traumatisme physique et moral. Et nous savons qu'aujourd'hui dans le monde moderne, cet acte est banalisé par le cinéma. Mais cependant, à l'époque, il est quelque chose d'effroyable. Et ceci fut pourtant très très mal vu pendant des siècles et des siècles. Les accusés furent attrapés et furent mis en prison dans le Grand Châtelet 1 mois plus tard, pour une durée inconnue. Nous avons aussi la belle illustration de Rétif de la Bretonne, Les Nuits de Paris ou Le Spectateur Nocturne. C'est un joli dessin, bien travaillé, mais qui exprime toujours ce tact banal entre 1788 et 1789. En dépit de ses rares supports documentaires, le viol demeure un phénomène des plus difficiles à saisir en raison de l'invisibilisation dont il fait l'objet dans la société du XVIIIe siècle. Certaines déclinaisons des sévices sexuels apparaissent d'ailleurs dans les sources plus imperceptibles que d'autres. Il s'agit d'abord du viol conjugal, un phénomène sur lequel la littérature scientifique d'aujourd'hui lève graduellement le voile. Mais alors indicible au vu de l'état d'infériorité juridique caractérisant les relations maritales du siècle des Lumières, il en va de même dans le cas du viol au sein de la structure familiale. Pour des raisons relevant à nouveau du régime d'autorité et d'honneur propre à cette époque, enfin le viol des hommes adultes résiduels numériquement apparaît largement éclipsé des sources. Quelle que soit la configuration concernée, tous ces faits sont écrasés par les tendances générales du XVIIIe siècle à la banalisation du viol. Les attitudes de l'époque vis-à-vis du consentement et de l'intégrité du corps n'étaient pas les nôtres. L'ancien régime représentait bel et bien un autre âge de la sensibilité. Le viol n'y incarnait alors qu'une modalité au sein d'un continuum de brutalité physique et morale, d'agressivité et d'abus, de violence quotidienne et ordinaire. La lente civilisation des mœurs, décrite par exemple par Norbert Elias, suivait son cours sans parvenir à abolir cette forme de tolérance sociale vis-à-vis du viol. Ce fait se donne à lire en toute netteté dans les rares récits rédigés par les agresseurs eux-mêmes. Le ton y apparaît léger, anodin, d'une banalité déconcertante pour le lectorat d'aujourd'hui. Une source importante permet de prendre la mesure de cette perception masculine du viol. Les mémoires de Jacques-Louis Ménétra, maître verrier parisien du XVIIIe siècle, édité par l'historien Daniel Roche. Nous y découvrons plusieurs scènes de viol commis par le narrateur lui-même, notamment à l'occasion d'une promenade avec son ami Gombeau, un dimanche aux confins des bois de Vincennes. Allant par-dedans des broussailles, nous trouvâmes un nid humain des jeunes, ainsi prendre du bon temps. Il avait eu la prévoyance de planter son épée nue à côté de lui. Et croissait et multipliait, comment nous venions par l'effet du hasard de l'interrompre dans cette opération humaine, et nous envoya par-dessus les poiriers. Gombeau, à ses sottises, se jeta sur son épée et fit évidemment l'irréparable. Nous nous moquâmes de lui en remerciant le jeune personne de sa complaisance et quand nous en fûmes un peu éloignés, nous lui jetâmes son épée. La légèreté avec laquelle ce viol fut commis et mis en récit par l'un des agresseurs est de quoi surprendre au vu de nos critères contemporains de perception de la violence et du traumatisme. Précisons toutefois que les pérégrinations de Ménétra révélaient en d'autres occasions une coupable prise de conscience de la gravité de l'acte perpétré. Nous rencontrons un épisode de ce type lorsque le vitrier en route vers Angers, en compagnie d'un rennais, tomba nez à nez avec un couple de bergers et réitéra les mêmes actes. Ah, en tant que bon chrétien, il se disait « je vais prêcher, je vais payer, à moitié pardonner » et décida de remettre 3 pièces de 2 sols à sa victime avant de reprendre la route, le cœur léger d'avoir supposément de ces quelques piécettes réparé sa faute aux yeux de Dieu et ce n'est que sa victime. Voilà comme ça, à cette époque, nous nous allégions de nos actes. Les victimes entre justice et médecine, ce fut horrible. Pour les victimes, c'était un acte affreux. On leur perpétrait évidemment un acte doublement plus atroce pour vérifier si l'acte avait été bien consommé. Et ça, évidemment, ça dissuadait beaucoup les victimes. Et ça l'est toujours, je crois, encore aujourd'hui. Certaines catégories de violeurs bénéficient automatiquement de circonstances atténuantes. La sanction était minorée dans le cas de très jeunes garçons, tandis que la peine de mort n'était jamais pratiquée sur les hommes de moins de 20 ans. La parole des femmes était considérée comme suspecte par les accusés d'abord, qui martelaient le consentement ou la provocation de leurs victimes. Les femmes devaient donc démontrer qu'elles avaient lutté, crié, appelé à l'aide, et ce jusqu'à la dernière seconde. Ah, la médecine enfin ne manquait pas d'intervenir, ajoutant sa violence symbolique au physique et au tourment des victimes. Ajoutons à cela que les procédures d'administration de la preuve incluaient une expertise médicale chargée d'observation des lésions et des inflammations. Oh mon Dieu, quelle horreur! Non sans écho avec les problématiques contemporaines, certaines descriptions nous permettent par ailleurs de prendre la mesure de l'horreur subie par ces femmes. Nous connaissons ainsi le rapport dressé par M. Sauveur Vigo, chirurgien juré des prisons de la conciergerie de la cour du Roussillon le 5 décembre 1730 à propos de la jeune Inès Salès qui déclarait avoir subi et avoir été perpétrée par 2 adolescents. Et ceci fut terrible pour elle et jusqu'à ce qu'elle passe entre les mains du chirurgien. Comment dans ces conditions s'étonnerait-on du faible nombre des plaintes, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi. Alors, c'est pour cela que la notion de souillure et d'indignité formait le socle de l'honneur du public. Alors, nous avons avec le tableau de Antoine Watteau, Le faux pas, 1716-1718, que nous avons une interprétation de cet acte avec toujours la plus grande intimité. La justice pouvait même, dans certains cas, en se relevant le pire ennemi des femmes, en se retournant littéralement contre la victime elle-même. N'évoquons ici qu'une affaire de 1728 publiée dans le 17e volume des causes célèbres de François Richer. Nous y découvrons une certaine Marie-Louise Corpel, qui pourrait être le parfait exemple de ce tableau, habitante du village de Pars, actuelle Aube, victime dans une grange d'une tentative de viol par le garde-chasse M. Jean Gobineau. Tirant de sa poche un couteau, cette femme résista et se défendit si bien qu'elle émacula son agresseur. C'est ainsi que celui-ci, au lieu d'éprouver le sort de Tarquin, éprouva celui d'Abélard, selon la formule du périodique relatant l'affaire. Légitime défense, dirions-nous, tel ne fut pas l'avis de la justice jusqu'au terme de la procédure judiciaire. C'est bel et bien notre pauvre Marie-Louise Corpel qui fut condamnée par l'arrêt final à 5 ans de détention à l'hôpital général. L'hôpital général qui d'ailleurs était depuis quelques années entre les mains de gens plutôt douteux. Donc je crois que pour elle, ça fut être une continuité de l'horreur. L'émotion publique. Si la justice était une chose, le tribunal de l'opinion publique en était une autre. De nos jours, des voix critiques soulignent régulièrement la responsabilité médiatique dans la banalisation du viol, du féminicide conjugal et de toute autre violence faite aux femmes. S'il reste difficile de livrer une vue d'ensemble de la manière dont la presse traita ses affaires, et plus encore d'établir dans quelle mesure ce traitement journalistique contribua à la diffusion de la culture du viol, il est établi que certains rédacteurs pouvaient se rendre coupables des pires euphémisations, transformant, comme nos propres journalistes savent encore le faire, les pires affaires de viol en affaires de cœur, les agressions sexuelles en faits divers amoureux. Cela n'empêcha pas, cependant, la presse de l'époque de s'élever en plusieurs occasions contre des cas de viol donnés par infâmes et insupportables. Ainsi, dans l'espèce de journal du 26 avril 1734, il est écrit « Il y a quelques jours qu'un homme fit violence dans le marais à une jeune cafetière dont il était étreintement amoureux depuis longtemps. Le mouchoir qu'il lui mit dans la bouche pour l'empêcher de crier fut malheureusement enfoncé. Mon Dieu, qu'elle étouffa avant que l'on fût aperçu que l'on pût y remédier. Ces aventures ne vous surprennent-elles pas ? Que dites-vous d'un pays où les viols commencent à devenir communs ? Reconnaissez-vous votre pari ? Et ne croyez-vous pas, au contraire, que j'ai tiré ceci de quelques relations de la Mongolie ou du royaume de Congo ? Troquant ainsi le sexisme pour le racisme, selon un schéma de pensée qui n'est pas non plus étranger à notre époque, le rédacteur rejetait le viol dans le domaine de la barbarie, d'un envers de la civilisation. » Ceci étant dit, nous allons poursuivre notre petite pause musicale en compagnie de Alan Walter avec Sing Me to Sleep.
Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. We'll be right back.
compagnie de Alan Walter, Sing Me To Sleep, et toujours en compagnie aussi de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire. Alors à présent, nous allons passer, pas du coq à l'âne, mais nous allons passer à une autre époque, c'est-à-dire dans les années 50. Nous avons un grand écrivain, Vladimir Nabokov, qui écrit un livre qui s'appelle, qui est un roman, Lolita, qui a d'abord été rédigé en anglais et qui a évidemment provoqué un tollé, une œuvre scandale, chef-d'œuvre soi-disant littéraire, manuscrit rejeté, publié, censuré, réédité. Lolita, c'est l'histoire d'une quadragénaire qui brise son crâne de ses propres mains et donne à voir le sang de ses passions déviantes s'égoutter sur le corps d'une enfant de 12 ans. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, nous sommes en 1952. Humbert, 42 ans, rédige une longue confession alors qu'il est placé en détention provisoire pour meurtre. À quelques jours du procès, le quadragénaire meurt d'un infarctus et le manuscrit sort de plaidoirie expiatoire destinée à l'origine à défendre sa cause lors de son audience et récupéré par son avocat qui le soumet à un certain Dr. John Ray pour la publication, lequel ne doute pas que Lolita deviendra un classique dans les milieux psychiatriques. Ce qui est certain, c'est que Nabokov a ici signé le plus grand succès de sa carrière. Lolita est un roman affreusement beau. Vous voyez, on arrive à y mettre du beau. Un roman coup de poing qui terrasse celui qui s'y frotte tant dans l'essence même de ce qui est relaté que dans la façon dont l'histoire est traitée, entachée d'une poésie. On y met une poésie si violente, mais c'est une poésie. Quelle issue d'un revers de main, tout usage de termes obscènes, alors même que l'action du livre regorge d'obscénité. Alors d'un coup de main, toute obscénité est envolée. Vous voyez, ou par le biais de l'art, ou par le biais de l'écriture, on arrive à dédramatiser et à mettre un culte, on va dire, de l'horreur et de l'édulcorer. C'est ainsi. C'est au lecteur que l'auteur laisse le soin de se torturer dans une imagination aussi cauchemardesque que fascinante. En instillant un désir pénible, accablant, insupportable de sauver Lolita des griffes de cet homme à la concupiscence inextinguible, Nabokov nous empêche de poser son livre, reposer son cœur et respirer. Car c'est d'un souffle coupé par une rage aussi viscérale que vaine que le lecteur explore péniblement Lolita. Une perversion crève-cœur ? C'est une douleur lacinante qui vient déchirer les pages du mémoire d'Humbert, cet homme torturé par ses passions déviantes. Passions déviantes. Par son humiliante, sordide et taciturne vie amoureuse. Tandis qu'il déclare être parfaitement conscient du caractère malsain de ses penchants, ce n'est juste que malsain. Humbert distille à plusieurs endroits de sa confession des justifications qu'elle porte du côté législatif en énumérant les nuances et les différences dans les textes suivant les zones géographiques ou encore du point de vue social et sociétal en citant des noms tels que Dante, Pétrarque ou faisant référence aux pratiques culturelles matrimoniales dans une certaine région d'Inde où il est totalement convenu qu'un enfant puisse devenir la femme d'un homme plus âgé. Malheureusement pour lui, il se retrouve plongé dans une civilisation qui permet à un homme de 25 ans de courtiser une fille de 16 ans, mais pas une fille de 12 ans. Le poltron respectueux des lois qui fit réellement sincèrement de son mieux pour lutter contre une perversion qui l'assaille et le submerge finira par y succomber à 37 ans lorsqu'il rencontrera au cours de l'été 1947 Dolores Haz, sa nymphette de 12 ans, celle qui deviendra sa Dolly, sa Lo, sa Lola, sa Lolita. La nymphette, l'une de ces créatures élues, âgée au minimum de 9 ans et au maximum de 14 ans, qui stimule l'appétit sexuel du nympholepte, homme qui doit compter au minimum le double de son âge, seul à même à distinguer ses traits qui les différencient des autres petites filles, telles que la finesse d'une jambe de huteuse et autres indices que le désespoir et la honte et les larmes de tendresse interdisent d'énumérer. Lolita, victime d'inceste, de pédocriminalité, ce n'est pas épousant la, certes, Charlotte Haze, mère de la petite Dolores, qu'elle néglige et maltraite, que le bel Humbert peut s'assurer de la présence de Lolita à ses côtés, cette enfant mal élevée, insolente, rebelle, qu'il aime passionnément, qui l'obsède et qui deviendra dès lors sa belle-fille. C'est à la mort de cette pauvre Charlotte, tragiquement d'un accident, le quadragénaire deviendra le tuteur légal de Dolly, qu'il traînera alors dans un nauséabond road trip de 2 ans à travers les États-Unis, d'état en état, de ville en ville, de motel en motel, ses endroits rêvés pour dormir, se disputer, se réconcilier et aussi s'adonner à des amours illicites et insatiables. Des amours illicites et insatiables. Cette virée signe la mort du pédocriminel et la naissance de la pédocriminalisation. Le beau-père devient l'amant, la fille, une maîtresse, une ignominie dont est témoin le lecteur impuissant. C'est à coup de manipulation révulsante qu'Humbert arrive à maintenir son emprise sur l'eau, qu'il menace de placer en maison de redressement si elle le fuit ou le dénonce. Après l'avoir drogué, c'est en lui promettant argent ou attraction qui l'amène à accomplir ses devoirs du matin. Avec de l'argent, réclamera-t-elle, c'est ainsi que petit à petit, la vie de Dolly bascule dans l'horreur. Nous allons faire à nouveau une petite page musicale avant de passer à une autre forme d'art qui exprime d'une manière toujours édulcorée, évidemment, ce qui est inacceptable. Nous allons faire notre petite pause avec Cold Treasure.
신비로운 그 눈으로 날 보는 너 누가 나에게 왔을 때 그제서야 난 알았네 yeah. 우리는 다른 세상으로 가고 있어 넌 내 손을 잡고 그냥 따라오면 돼 oh yeah, yeah, yeah. 반짝이는 눈빛 눈이 부셔 매일 날 감싸주는 손길 더 바랄 것이 없지 꿈속으로 나를 데려가줘 그토록 찾던 나의 treasure Will we always be together Our love will be forever 눈 뜨면 사라질 너일까 그 미소와 선명한 옷자락에 감촉까지 다 너무나도 여린 널 잘 아니까 눈이 부셔와도 눈 감은 채 너와 계속 꿈을 반짝이는 눈빛 눈이 부셔 매일 날 감싸주는 손길 더 바랄 것이 없지 꿈속으로 나를 데려가줘 그토록 찾던 사라질 듯 멀어져도 잠시 기다려줘 너에게 갈게 우리 이 꿈을 깨어나면 안 돼 Oh yeah Yeah 반짝이는 눈빛 눈이 부셔 매일 날 감싸주는 손길 더 바랄 것이 없지 yeah. 꿈속으로 나를 데려가줘 그토록 찾던 나의 treasure Will we always be together Our love would be forever
Cold Treasure. Voilà, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et qui monte crescendo au fil des siècles, n'est-ce pas ? Entre le 18e et le 21e. Donc, 3 siècles se passent, évidemment, avec une progression lente mais sûre. Donc, évidemment, c'est très elliptique. Je ne vous ai pas énuméré tous les modes d'art qui ont mis en valeur ces actes. Alors j'en ai choisi 3 et au fil de mes recherches, évidemment, pour trouver le plus proche et le plus choquant, parce que du graphisme, évidemment, des gravures du XVIIIe siècle, très pudiques, où le titre voulait tout dire, et donc déjà c'était suffisant, ben nous passons aujourd'hui à une très grande pétition qui s'est passée, vous savez, pour le retrait des toiles à caractère pédopornographique de Myriam Khan, exposée au Palais de Tokyo, qui fut un grand choc. Nous sommes choqués, oui, trouvons inacceptable à l'égard des victimes de crimes pédocriminels de voir cette exposition. Ces toiles sont-elles un glissement vers la démocratisation et l'acceptation de ce genre de pratiques qualifiées par la loi encore, et jusqu'à nouvel ordre, quand même, de crimes ? Quelle est l'utilité de certaines toiles en mettant en scène des enfants pratiquant une fellation à un adulte ? Peu importe le sens ou le message voulant être véhiculé, l'illustration de celui-ci est juste inacceptable. Et ce, par respect pour les nombreuses victimes de ces individus désaxés, n'étant que des prédateurs sexuels dont les proies sont des enfants, ne pouvant se défendre au moment de ces viols, attouchements ou autres supplices. En plein cœur de l'affaire, nous pensons qu'il faut quand même avoir une limite. Une limite de la décence pour nos enfants. Après tous ces crimes et affaires pédocriminelles qui ont choqué le pays, qu'il s'agisse d'histoires d'inceste, d'agressions sexuelles ou autres, les drames psychologiques générés, des enfants cassés, des futurs adultes brisés, des familles décimées, et tout ceci pour des adultes détraqués, puissent assouvir leurs bas instincts, n'étant toujours et encore que trop peu inquiétés. Eh oui, c'est triste. Mais c'est comme ça. Au passage, il ressort que la lutte contre la pédocriminalité en France reste jugée insuffisante. Le manque de moyens volontaires ou involontaires pour instruire les affaires sont compliqués. Où sont les collectifs et associations féministes pour dénoncer ces crimes ? La femme porte la vie. Et si je devais dire cette parenthèse du XVIIIe siècle, elle aurait dû défendre et ne pas laisser monter cet acte crescendo que nous voyons aujourd'hui au XXIe siècle, après avoir été bafoué depuis le XVIIIe siècle. Elle enfante ses enfants, ils sont sabotés du fait d'une société phallocrate dans laquelle les pulsions déviantes de certains hommes deviendraient une norme. Dénoncer que ces actes abjects soient à ce jour exposés sur certaines toiles. Car respecter la femme, c'est aussi respecter l'enfant qu'elle porte et donc respecter la vie. L'enfant ne doit pas être un produit de consommation pour ses fous avérés et parfois peut-être même protégés. Donc nous appelons les associations et les collectifs droits de l'enfance à demander l'interdiction d'exposer ou de mettre en avant ces actes de n'importe quelle façon que l'on puisse plus ne prendre ses enfants exposés devant tout le monde alors qu'ils sont meurtris. Ainsi, afin d'amorcer cette démarche, nous demandons évidemment le retrait de cette image. C'était le dépôt donc d'une pétition qui finit par que de telles images ne soient jamais, jamais banalisées, que ce soit au 18e, 19e, 20e et 21e siècle. Ces siècles-là ont trop laissé passer l'inacceptable. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous quitter, vous souhaiter une fin de joli mois de mai et nous nous quittons avec Ko Young Bi From et Moon Si Wong.
Yeah.